Je donne la parole maintenant à Hubert Balic. Je lui rappelle le titre de la session, « La situation des populations au Mali ». Alors je voudrais, Hubert, que vous nous parliez également de la situation de la population au Mali. Ce n'est pas très facile, mais c'est le thème de cette table ronde. Et je voudrais rappeler à chacun, chacune d'entre vous, que Hubert Balic a passé beaucoup plus d'années de sa vie dans le Sahel que dans la Provence Côte d'Azur, où il réside habituellement pour son attache universitaire. Je le connais depuis très longtemps et nous n'avons pas encore réussi à nous fâcher. Donc c'est une preuve de son bon caractère. Hubert, levez la parole. Je donne une explication à la confusion que j'ai faite tout à l'heure. Le programme que j'avais porté la fin de la table ronde à 17h15, mais Dominique Kerwédan a rectifié à la main et a mis 18h15. Donc nous nous sommes trompés l'un et l'autre de bonne foi.
Hubert. Merci, monsieur le professeur. Et je vais profiter de cette occasion pour dire tout le plaisir que j'ai à siéger sous votre présidence, parce que c'était, pour moi, c'est un grand, grand plaisir, en plus d'un grand honneur. Et à porter témoignage et vous rendre hommage de ce que vous avez fait pour le Mali. Moi, j'ai débarqué à Bamako en 1975, lorsque j'ai fait mon service militaire, comme VSN, je n'étais pas là comme militaire. J'étais comme médecin, et on s'est rencontrés très rapidement, et j'ai donc pu voir la totalité de tout ce que vous avez pu faire dans ce pays avant que je n'arrive, puisque vous l'avez rappelé, vous avez travaillé à Gao avant que je ne sois là. Et puis, en ce qui me concerne, j'avais 28 ans, donc en 1975, j'avais des idées que l'on a lorsqu'on a 28 ans, et petit à petit, j'ai senti une convergence avec vis-à-vis des choses que vous disiez, et sur lesquels nous avions l'occasion d'échanger lors de soutenances de thèse et d'autres choses à la faculté de médecine de Bamako. Donc, pour moi, je tiens à vous redire une fois toute la joie que j'ai de me retrouver sous votre présidence. Donc, je vais essayer de faire un exposé, de vous exposer le thème là, avec lequel nous sommes mis d'accord avec Dominique Arouedan, que je remercie de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. Le Mali en guerre entre action humanitaire et développement dans le domaine de la santé. Salif, tout à l'heure, a abordé cette question des relations action humanitaire et développement. Je crois que c'est une question qui est très importante, et le Mali peut être un bon exemple. Alors le Mali, bon, tout le monde en a entendu parler, fut un temps où on ne savait pas trop où c'était. Il y avait des Américains qui arrivaient à Tombouctou, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient au Mali. Et ils avaient pris l'avion pour Tombouctou, pour avoir un tampon sur leur passeport montrant qu'ils étaient allés à Tombouctou. Maintenant, le Mali, le monde entier, je pense, connaît le Mali. Et je pense que ce sera une opportunité plus tard pour que ce pays puisse retrouver la place qui était la sienne et la dynamique qui l'accompagnait avant les douloureux événements, les dramatiques événements que ce pays a vécu depuis janvier 2012 et plus précisément mars 2012. Donc c'est un pays, que vous voyez sur cette carte, enclavé. C'est un pays très vaste, 1 240 000 km², 2,5 fois la France. C'était autrefois le Soudan français, et ça peut expliquer pourquoi la France est intervenue, et je pense que l'histoire, c'est important. Pays de 15 millions d'habitants, dont 70% sont ruraux. Alors la richesse nationale produite par ce pays s'élève à 680 US dollars par personne et par an. Voilà, pour comparer, la France, c'est autour de 40 000. Ça permet d'avoir une échelle de grandeur, et de voir, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Mais un point qui est fondamental et que l'on oublie souvent, c'est que le Mali, en janvier 2012, avait un taux de croissance attendu qui était de 6%. On serait content d'avoir 6% en France. C'était un pays qui était en plein développement. Et là, je reviens sur ce que disait tout à l'heure le professeur Gentilini lorsqu'il parlait de Bamako. Le Mali, moi, je l'ai suivi pendant près de 40 ans. C'était un pays qui était en plein développement. Bien sûr, le développement, c'est pas facile. Lorsqu'on part de moins 40 et qu'on n'est qu'à moins 20, ben c'est vrai que moins 20, comparé à plus 20 ou plus 40, c'est pas beaucoup, on est au-dessous du niveau de la mer, mais on a accompli plus 20, en passant de moins 40 à moins 20. Et ça, je peux dire que j'ai toujours eu une vision extrêmement positive du développement de ce pays. Bien sûr, c'est difficile, le développement, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est un pays qui était en train de trouver véritablement sa place dans l'avenir. J'ai suivi, je peux vous le dire, vraiment à la loupe ce qui s'est passé au Mali depuis plus d'un an, et je dois dire que je ne me reconnais pas dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de déclarations. Je ne me reconnais pas dedans, je sais que je suis peut-être politiquement incorrect, mais j'ai une autre lecture des choses. Donc je me permets de le dire parce que ce pays est tombé, mais peut-être que si on est tombé, c'est pas forcément parce qu'on ne sait pas marcher. Tout le monde peut tomber dans sa vie, et l'histoire de France est pleine de chutes. La France a su se relever. La France a vécu des drames. Ces drames l'ont enrichi, lui ont permis d'avancer. Mais le Mali, il est en train de vivre, comme tous les pays, un drame. Et moi, j'ai la conviction que ce drame sera enrichissant. Alors, un élément de son développement, ben oui, ce pays, quand j'y suis arrivé, il y avait 100 médecins, 100, en 1975. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 médecins, docteurs en médecine maliens. Plus de 5000. Alors, on ne le dit pas trop. Hein, et je pense que c'est important de le savoir. Le Mali a su créer, grâce à sa faculté de médecine, à laquelle le professeur Gentilini a longuement participé, le professeur Doumbo, qui est un des enseignants de cette école aussi, et c'est un pays qui a une capacité, comme les autres, hein, je ne parle pas des autres pays, des pays voisins et autres, qui ont aussi leur potentiel, mais le Mali est aussi, malgré tout ce qui se passe, c'est un exemple qui permet d'être plein d'espoir pour l'avenir. Alors du niveau, en essayant de se concentrer sur les dépenses de santé, elles s'élèvent à 34 euros par habitant et par an. Si on les rapporte des 2700 euros que l'on dépense en France, ben là, encore une fois, on peut relativiser. Ça permet de comprendre des choses. Lorsque je donne ce chiffre, des gens me disent « mais on ne peut rien faire avec 34 euros par personne et par an ». Ben oui, il y a des gens qui vivent, il y a des médecins qui travaillent, il se passe plein de choses. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de faire des choses. Voilà, donc ces petits éléments sur ce pays, hein, qui, encore une fois, j'en suis convaincu, va retrouver toute sa dynamique et va pouvoir... à la limite, même, je pense, étonner beaucoup qui, actuellement, pensent que ce pays n'a pas su réussir son parcours politique, n'a pas su asseoir sa croissance économique. Je ne le crois pas, même en termes de démocratie. Hein, on pourrait en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est une démocratie de pacotille. C'est pas vrai. Moi, je peux attester de ce qu'a été l'évolution de la citoyenneté dans ce pays. Un pays qui a une culture profonde, fondamentalement féodale, et j'ai vu progressivement, au fil du temps, apparaître ce concept de citoyenneté, hein, en rappelant qu'un citoyen, ben, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de famille, alors que dans les sociétés féodales, on a un sexe, on a un âge, on a une famille. On sait que tel tu es de telle famille ou de telle autre, mais quand on met son bulletin d'urne, son bulletin dans l'urne, eh ben, tout ça prend une toute autre nature, une toute autre tournure. Le Mali était sur ce chemin-là. Alors bien sûr, si on essaie de comparer le Mali à des pays qui ont 200 ans d'histoire sur le chemin de la démocratie, ben, effectivement, c'est fragile. Mais ça ne permet absolument pas de douter de l'engagement démocratique de ce pays. Alors, rappelons les événements du Mali, donc 17 janvier 2012, hein, voilà, début des hostilités contre l'armée malienne. Bon, je ne rentrerai pas dans ces éléments-là. Et puis, en réponse à ces événements, ben, le 22 mars 2012, comme l'a rappelé Salif Samaké, un coup d'État à Bamako. Et le président qui était en place, qui a rencontré M. Gentilini, ben, a dû s'enfuir pour sauver sa tête. Et l'État s'est retrouvé entre les mains de putschistes. Mais en avril 2012, les choses ont évolué. Et donc, à la suite de ce coup d'État, les troupes hostiles qui étaient dans le Nord ont profité de la confusion qui se présentait à Bamako pour envahir les régions du Nord. Et ont occupé les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal, ainsi que le cercle de Gouenza, qui se trouve dans la région de Mopti. Devant cette situation, l'administration s'est repliée sur la zone libre du pays, et on a assisté, avec ce coup d'État, à une suspension d'une grande partie de l'aide internationale et des programmes de développement. Donc à partir de ce moment-là, les États avaient en face d'eux un pouvoir qui était putschiste à ce moment-là, et donc on a mis un terme à toute une série d'accords qui existaient avec le Mali. Et cette situation, que ce soit la situation conflictuelle, la coupure qui a isolé la zone nord du pays de la zone sud et cette disparition de l'international a mis le pays en récession. Donc l'année 2012 a été une année de récession. Et tous ces événements ont amené le gouvernement à réduire de 33% le budget de l'État. Le budget de l'État a été réduit de 33% pour faire face à la situation. Les 77% qui restaient, la priorité a été apportée au salaire pour pouvoir payer les fonctionnaires. Et heureusement, jusqu'à ce jour, les fonctionnaires ont été payés. Parce que imaginez ce qui allait se passer dans ce pays si les salaires n'allaient pas être payés. Ils ont pu être payés. Et à la défense, le pays était en guerre. Et on a vu une disparition quasi totale des budgets de fonctionnement des services publics. Et en particulier, Salif l'a dit, en matière de santé. Alors, le pays a été divisé en deux zones. Vous voyez sur la première carte, cette zone qui représente toute cette zone sahélienne dans laquelle évolue ACMI, qu'on appelle les djihadistes, dont l'origine vient principalement d'Algérie. Et vous voyez en orange donc cette partie nord du pays qui a été occupée, que l'on revoit sur la carte de droite. Les régions occupées, c'est les trois régions de Tombouctou, Gao, Kidal. Ça représente à peu près 1,4 million habitants, donc à peu près 10% de la population d'ensemble. Et Tombouctou, 730 000 habitants, à peu près Gao, 600 000, Kidal, dont on parle beaucoup, puisqu'en ce moment, il y a des discussions très fortes entre un mouvement qui s'appelle le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui est en discussion et qui représente cette région, 70 000 habitants. Alors pourquoi une région de 70 000 habitants alors que la région de Sikasso a 2 millions d'habitants, la région de Tombouctou 730 000, c'est pour des raisons politiques. Ce sont les événements précédents qui ont conduit à créer une région pour faciliter justement l'intégration dans la citoyenneté des populations de ces zones, des populations de culture touareg principalement. Alors ces régions du Nord sont peuplées, sont occupées par plusieurs groupes culturels. Je tiens à prononcer ce terme-là, je le dis de façon très claire. Pour moi, dès qu'on commence à rentrer dans des considérations et qu'on parle d'ethnie, on n'est pas dans l'histoire. On n'est pas dans l'histoire, on est dans le passé, oui, ou l'histoire d'autrefois, pas l'histoire d'aujourd'hui. Parlons de culture. L'avenir de l'Afrique se trouve dans l'intégration africaine et pas dans la balkanisation. Il n'y a pas d'avenir. Et donc, parlons de culture, effectivement, de gens de cultures diverses et qui doivent se retrouver autour d'une construction commune. Dans cette région du Nord, il y a deux hôpitaux généraux, à Tombouctou et à Gao. Il y a 10 hôpitaux de district dans les régions du Nord. Il y a 161 centres de santé communautaires. Ça permet aussi, pour que tout le monde soit bien édifié par rapport à ça, de répondre à des discours qui disent qu'il n'y a rien en matière de santé dans le Nord et qu'on a abandonné le Nord. Je pourrais en parler de façon longue. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles dans des pays pauvres, dans des pays sahéliens, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ne correspondent pas à la réalité. En tout cas, j'en témoigne ici. Alors, les conséquences, les conséquences, d'abord, elles sont humaines. Alors, il y a eu une situation, vous en avez entendu parler, vous avez vu des émissions à la télévision. Je crois que tout le monde est informé de ce qui s'est passé dans la zone occupée. Avec une insécurité totale, avec des exactions dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'ont vu les gens qui vivaient sur place. Un effondrement total de la vie économique et sociale dans la zone occupée. Et cette situation a entraîné le départ de plus de 500 000 personnes sur les 1,4 million. Donc 204 000 réfugiés qui sont partis vers les pays voisins et 300 000 qui sont descendus vers la zone libre du pays, vers Bamako, Mopti, Ségou. Donc vous voyez par les flèches les différents départs de population. Ce sont des chiffres qui sont donnés par OCHA, dont on a parlé, l'Organisation humanitaire des Nations Unies. Et les populations, alors c'est quand même important de voir ce qui s'est passé pour les populations déplacées, celles qui sont rentrées dans le sud du pays, c'est qu'il n'y a eu que deux camps de réfugiés, un à Mopti et un à Gao et un à Bamako, mais qui étaient vraiment de petits camps, pas des grands importants. La plupart des déplacés qui sont venus vers le sud du pays ont été accueillis dans les familles. et soit ont été donc ont rejoint leurs parents qui vivaient dans ces zones-là, et en particulier à Bamako, ou des amis. Hein, on est dans la réalité extrêmement courante encore en Afrique, hein, où on connaît quelqu'un, on va chez lui, ou bien les familles ont dû louer des chambres, hein, dans des cours pour pouvoir y vivre avec des conséquences humaines assez terribles, du point de vue économique essentiellement. Et puis les conséquences sanitaires. Dans la zone occupée, on a assisté à un effondrement du système de soins tout de suite. Les établissements de soins ont subi, on en a parlé hier et ce matin, des pillages, des saccages, les équipements, les médicaments, tout ça a disparu. Les ressources humaines, ben, pour des raisons de sécurité, sont parties. Et les activités de la plupart des hôpitaux et des centres de santé communautaires se sont arrêtées. Hein. Certains centres ont continué à travailler avec un personnel mais qui essayait tant bien que mal de trouver des solutions à ces problèmes. Les réfugiés sont partis hors du Mali, et là, ils ont été pris en charge dans des camps de réfugiés, appuyés par les ONG, les organisations internationales, le HCR, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc., pour les déplacer à l'intérieur du pays, ben, ce qu'ils ont vécu, ceux qui sont arrivés à Mopti, à Ségou, à Bamako, ben, se sont retrouvés devant des difficultés financières. Au début, ben, ça allait à peu près, et puis au fil du temps, ça devenait vraiment extrêmement difficile. Et il fallait faire face au loyer pour ceux qui avaient pris des maisons, c'est-à-dire des chambres, hein, dans des cours, aux dépenses quotidiennes, il fallait s'alimenter, aux dépenses de santé. Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins, mais cette gratuité n'empêchait pas que les gens étaient obligés de faire face à des dépenses. Et assez rapidement, on s'est retrouvé devant des situations économiques particulièrement difficiles. Moi-même, j'ai eu à circuler dans certains quartiers de Bamako pour rencontrer ces personnes. Je veux dire qu'on pouvait imaginer toutes les situations qui se passaient, y compris des situations de prostitution et autres, parce que des mères de famille étaient obligées de trouver des solutions pour pouvoir faire face à leurs problèmes quotidiens. Alors, face à cette situation, il y a une réponse humanitaire immédiate. Donc là, je crois vraiment il n'y a... Là, les ONG humanitaires et les organisations internationales ont fait preuve d'un professionnalisme extrême, et donc elles se sont mobilisées. La plupart d'entre elles, en tout cas un grand nombre d'entre elles, étaient déjà présentes. Les organisations comme Médecins sans frontières, comme Médecins du Monde, étaient déjà présents au Mali, hein, et donc ont modifié leur modalité d'intervention. Donc Médecins sans frontières, MDM, Médecins du Monde, la Croix-Rouge, Alima, Action contre la faim, Save the Children, CARE. Il y a au Mali peut-être au moins une centaine, hein, d'ONG présentes et qui interviennent dans ce cadre. Alors les ONG, compte tenu des problèmes liés aux prises d'otages, n'ont pas pu envoyer leurs expatriés. Il était impossible pour un blanc de type européen, disons, hein, de prendre le risque de monter dans les zones occupées, parce qu'il risquait d'être pris par les otages. Jusqu'à ce jour, nous avons malheureusement des otages qui sont encore aux mains des personnes qui ont été occupantes du Nord. Et donc, les ONG ont recruté des professionnels de santé maliens qui étaient volontaires, parfois d'autres pays africains, parce que certaines ONG avaient travaillé dans d'autres pays, ont proposé à certains Africains de venir. Eux, ils passaient, hein, puisque physiquement parlant, ils ne ressemblaient pas trop à des blancs de type européen. Et donc, ce sont tous les agents des ONG qui étaient présents dans le Nord étaient des professionnels de santé maliens pour la plupart et pour une petite minorité de pays africains. Et grâce à ce mouvement, ont été remis en fonction un grand nombre de centres de santé, les hôpitaux de district et les hôpitaux régionaux. Donc le système a commencé à reprendre. Pas la totalité, loin de là, mais une bonne partie a commencé à prendre en charge les patients au bout de quelques mois. Alors, dans ces formations sanitaires, étaient assurés les soins d'urgence, les produits pharmaceutiques étaient apportés gratuitement, des centres de récupération nutritionnelle ont été créés, des vaccinations ont été faites. Toujours dans cette réponse humanitaire immédiate, on doit également évoquer la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Hein, ce qu'on dit, c'est un terme consacré. Aujourd'hui, on ne parle pas de bailleurs de fonds, on parle de partenaires techniques et financiers. Les Nations Unies. Et les Nations Unies ont mis en place, Salif l'a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes qui sont initiés sous la coupe de OCHA, qui est l'Office de coordination des affaires humanitaires, pour coordonner l'action humanitaire. Donc, tout de suite, très rapidement, ces clusters ont été institués à Bamako. Et il y en avait 10, dont ceux de la santé, qui étaient pilotés par l'OMS, le cluster de la nutrition, qui était piloté par l'UNICEF, le cluster de WASH, ça veut dire Water, Sanitation and Hygiene, qui était également piloté par une organisation spécialisée. Les coopérations multilatérales, c'est ECHO qui a bien sûr été la principale. ECHO, c'est l'Office d'aide humanitaire de la communauté européenne qui apporte ses financements. Et les coopérations bilatérales étaient présentes, principalement, Salif l'a dit, les Pays-Bas, coopération néerlandaise qui était extrêmement présente au Mali, le Canada. Alors les États-Unis, oui, sur la partie strictement ONG. Les ONG américaines ont continué à recevoir des financements. Les États-Unis ont été le pays le plus strict sur la rupture des relations bilatérales avec le gouvernement, avec les putschistes et même le gouvernement qui leur a fait suite. La France, l'Espagne. Et il y a eu également une mobilisation nationale. Je dois dire ici, et je crois que c'est important parce que ça ne se sait pas, que le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali a organisé des missions qui sont montées vers les zones occupées avec des médecins volontaires qui ont accepté de partir malgré les risques de la situation. Il y avait même des femmes parmi eux qui sont montées, donc des médecins, des infirmiers, il y a même des sages-femmes, qui sont montées dans le Nord dans des missions pour pouvoir contribuer dans le cadre de cette solidarité nationale au fonctionnement du système de santé. Donc, indépendamment des médecins, infirmières, sages-femmes qui étaient recrutés par les ONG, il y a eu ce mouvement national piloté par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qui a pu bénéficier là-dessus de financements de l'OMS et de la France. Je tiens à le dire ici parce que la France a contribué à ces missions qui, au-delà de l'aspect purement médical de la chose, ont montré justement que cette prise en charge par les fils du pays se faisait. Et il y a eu également une mobilisation financière de l'ensemble de la population. Jusqu'à ce jour, il y a des cotisations qui sont faites tout le temps. À la télévision, on voit les dons qui sont donnés au fur et à mesure par la communauté malienne à l'intérieur du pays, mais par la communauté internationale. Le Mali est un pays où il y a à peu près 4 millions, en plus de la population présente dans le pays, il y a une diaspora de l'ordre de 4 millions de personnes qui sont dans toute l'Afrique, qui sont en Europe et particulièrement en France, ici à Paris, et qui ont tous cotisé pour envoyer de l'argent au pays pour pouvoir aider leurs compatriotes en souffrance. Concernant les modalités d'intervention de la communauté internationale, des ONG et de l'aide internationale, indiscutablement, ça je peux en attester, les principes de la diplomatie ont été respectés. Ils ont été respectés. Les pouvoirs publics ont été informés des interventions qui se faisaient, toutes les autorisations nécessaires qui étaient requises ont été obtenues pour pouvoir intervenir. Mais les interventions des ONG humanitaires et des agences internationales, ça je le dis, ça n'engage que moi de le présenter, mais c'est ce que j'ai perçu sur place en travaillant spécifiquement sur cette question, comme si l'État n'était pas en mesure d'assumer ses fonctions. Et il y a eu une marginalisation des instances nationales, à mon sens. Et ces clusters dont on parlait tout à l'heure fonctionnaient comme des ministères bis. Moi, j'ai perçu ça comme des seconds ministères. Et je vous avoue que c'est quand même assez choquant quand vous êtes en réunion avec le directeur de la santé, vous êtes obligé de traverser la rue pour aller à l'OMS, et c'est là que se tient la réunion, sous la présidence de l'OMS, et puis vous avez des strapontins, et les cadres du ministère de la Santé sont invités à s'asseoir sur le strapontin. Je vous avoue, j'ai été choqué tout de suite. Et ça s'est perpétué au fur et à mesure des événements. Je crois qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends très bien, j'ai été moi-même humanitaire, donc je comprends très bien tout ce qui a pu se passer, mais je tiens à le dire et j'apporte ce témoignage parce qu'il y a là quelque chose. Et le Mali permettait de faire autre chose que ça, nous allons en parler. Et tout à l'heure, la Salif également l'a rappelé, les organisations internationales ne pouvaient pas passer par les instances nationale de l'État, pour des raisons diplomatiques, là aussi de rupture de relations diplomatiques. Et certains bailleurs de fonds ont utilisé donc le canal des ONG pour pouvoir mobiliser leur financement, c'est-à-dire que il fallait que l'ONG, les Pays-Bas en particulier, apportaient de l'argent aux ONG, et les médecins qui voulaient travailler devaient s'adresser aux ONG pour pouvoir trouver des financements. L'un des éléments qui vient s'ajouter aussi à cette réalité-là, ça a été la difficulté pour l'État à reprendre son leadership. Et déjà, c'est un symptôme de ce qui s'est passé pour montrer à quel point il y avait un dysfonctionnement sur place. C'est que les médecins des régions, des régions occupées, de la zone occupée, donc les médecins-chefs de district, les 13 médecins de, 14 médecins de district, les trois directeurs régionaux de la santé qui sont descendus à Bamako, ils étaient là et on les utilisait sur des programmes dans la zone sud du pays, participer aux journées de vaccination, lutte contre la polio, etc. C'est très bien. Mais là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, à mon sens, parce que c'était des médecins responsables dans un pays qui était, bien sûr, dans une situation dramatique, mais ils avaient des responsabilités qu'ils ne les avaient pas quittées. Hein, et le fait qu'on les utilise à autre chose qu'à s'occuper des régions du Nord, pour moi, est un symptôme d'un dysfonctionnement. Or, si l'État a été sonné, j'emploie ce terme, l'État était groggy, hein, c'était le sentiment que j'avais après le coup d'État du 22 mars, ça a été dramatique à Bamako, le 12 avril 2012, il y avait un président de la République intérimaire, mais légitime, qui avait été nommé, donc dès le 12 avril. Alors, encore une fois, lorsque le président Pompidou, je me rappelle très bien, est décédé, ben c'est le président Poher qui a pris la suite. Et bon, il y a une situation intérimaire qui s'est faite, mais on était toujours dans le respect de la Constitution, on était dans la légitimité. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ces événements-là, le président intérimaire, le président Traoré, a été agressé, et pour moi, on a essayé de le tuer, parce que si lui avait disparu, il n'y avait aucune légitimité derrière, il n'y avait plus rien. Alors que là, il est représenté. D'après la Constitution, il avait 40 jours pour faire des élections. Comment voulez-vous qu'au Mali, on puisse faire des élections dans 40 jours après ce qui se passait ? En plus, en laissant le Nord en dehors de tout, ce qui était vraiment aller vers la partition complète du pays, et on refaisait l'histoire à l'envers pour revenir à une autre époque. Le gouvernement et ses ministres étaient en place à partir du 17 avril. Il y avait, moi, chaque fois que j'ai eu à travailler sur place, j'ai travaillé avec un ministère qui était celui qui existait, Chalif était là-bas, il était dans ses fonctions de haut fonctionnaire, un ministre, un secrétariat général, des directions nationales, l'administration était en place. Hein, donc elle était parfaitement opérationnelle, elle était sonnée, ça c'est clair, hein, quand Chalif s'est retrouvé dans son petit bureau après, parce que le ministère de la Santé a été saccagé à la suite des événements du 22 mars, le ministère de la Santé qui est à Koulouba, donc à côté du palais présidentiel, a été complètement saccagé, mon bureau a disparu, tout ce que j'avais laissé là-bas, tout a disparu, Chalif qui était à côté aussi a vu tout ça disparaître, les coffres forts ouverts, etc. Mais donc il y avait, à partir du 17 avril, une administration qui était en place avec un gouvernement. Et cette administration est restée présente et opérationnelle. Moi, à partir de... En juin, je peux attester qu'au mois de juin, elle était parfaitement capable de fonctionner. Mais elle était mise de côté. Et ça, je crois que... Bon, moi, pour moi, ça me heurte, parce qu'on est dans un pays qui est le premier responsable de son peuple. Qui est le premier responsable? Il n'y a rien. Si effectivement, il n'y avait pas d'État, on peut comprendre la situation qui se passait. Mais là, il y avait une situation avec un État qui aurait pu fonctionner si on avait eu ce sentiment qu'il fallait travailler avec l'État. Alors, au niveau des effets de tout ce qui s'est passé, il y a eu des effets positifs, heureusement, parce que les ONG ont travaillé, ont fait un travail remarquable. Donc ça n'enlève absolument rien aux résultats qu'ont eu les ONG, appuyés par les partenaires, avec une remise en fonction des établissements de soins dans leur zone d'intervention. Ils n'étaient pas partout, mais là-dessus, les ONG ont fait un travail remarquable. Je me permettrai de dire un petit mot vis-à-vis d'une ONG qui est une ONG lyonnaise, qui s'appelle Santé Mali-Rhône-Alpes, qui a su reprendre tout de suite le fil de ce qu'elle faisait avant les événements. Elle intervient dans le CER du Niafunké, et très très vite, ils ont su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ils ont remis le système en place de façon parfaitement exemplaire, je dois dire, parce que en faisant remonter des ressources humaines Bien sûr qu'elles ont dû rémunérer pour qu'elles puissent aller faire le travail, mais il y a eu des choses vraiment passionnantes qui ont été faites par les ONG, et je tiens à le dire. Les soins étaient gratuits, bien sûr, et l'aide alimentaire aussi était assurée. Par contre, au niveau des effets négatifs, en tout cas selon moi, hein, une mise en retrait des services de l'État qui se sont retrouvés, ça ne veut pas dire que l'État n'était pas là, mais dans une situation pareille, ben, vous êtes tout timide, avec votre, vous êtes tombé par terre, vous êtes tombé dans la boue, couvert de boue, vous êtes là, ne sachant pas trop que faire, et on ne vous aide pas à dire ben, « enlève ton boubou, mets-en un autre, et puis nous on est derrière toi ». Une accentuation du sentiment d'abandon. Moi aussi, ça, c'est quelque chose qui me paraissait assez grave. C'est que les populations restées dans le Nord avaient besoin de sentir que l'État était là. Et le fait de ne pas sentir du tout cette présence, moi, pour moi, posait un problème. Et une, comme effet négatif aussi, une disparition quasiment de toute gouvernance du système de santé de ces zones occupées. Et l'année dernière, hein, tout laissait penser, en 2012, que la situation allait se prolonger en 2013, et peut-être même au-delà, hein, puisqu'il y avait des discussions sur l'intervention qui pouvait se faire, mais pas avant le mois d'octobre hein, de cette année. Et là, on était tous, en tout cas, le travail qui se faisait, c'est de dire, ben, 2013, il va falloir assurer, et peut-être même ça risque d'aller au-delà de cela. Heureusement, cette situation que j'ai décrite hein, n'a duré que 9 mois. Parce que, bon, ben, au mois de janvier 2013, il y a eu la libération du Nord, après l'intervention française, et pour moi, je sais que les avis sont partagés, peut-être, par certains, moi, j'ai aucun état d'âme, et la France a été, je le dis de façon très claire, à la fois la décision politique et le travail de l'armée a été remarquable. Et ça s'est fait d'une façon, à mon avis, le jour où les historiens le décriront, c'était pas évident, hein, parce que je pense que lorsque la décision a été prise d'intervenir, le risque était énorme, hein, c'était pas gagné du tout. Imaginez s'il y avait eu si ça avait été la déconfiture, ce qui allait se passer en France. Ben voilà, le risque a été pris et ça a été remarquable. Au Mali, ça a tout changé parce que nous avions un gouvernement qui était extrêmement faible. Vous imaginez un président de la République hein, qui se fait tabasser, fracture du crâne, obligé de partir pendant un mois et demi, justement pour hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie politique malienne, c'est pas le lieu d'en parler, pour le faire disparaître l'élément qui était le petit fil qui restait de légitimité dans ce pays. Hein, et si la France n'était pas intervenue le 11 janvier 2013, eh bien, le soir, Mopti tombait, et le lendemain ou même le soir, il y avait un coup d'État à Bamako, hein, un nouveau coup d'État par les autres, et on se retrouvait avec une situation que je ne veux pas encore une fois décrire, ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais en tout cas, sachez que ça ne concernait pas seulement le Mali, ça allait concerner probablement ensuite
Je pense
que... J'ai fini, monsieur.
Oui, ce serait très bien parce que l'heure s'écoule, cool. La passion aussi, donc je voilà. Suis chargé
alors,
de vous arrêter.
Vous me permettez d'aller de terminer, mais enfin, je vais aller vite. Donc, la reprise en main par l'État de son leadership était possible et souhaitable et aurait pu être réalisée hein, à partir de juin 2012. Un réajustement des clusters, de telle sorte que les clusters travaillent à côté des ministères et non pas, enfin, à côté de l'administration et non pas devant l'administration. Ça me paraît quelque chose qui était tout à fait envisageable. Hein, les clusters étaient tout à fait utiles pour assurer la coordination, mais de le faire avec l'administration. La mise en place d'une cellule Nord qui aurait permis aux directeurs régionaux de la santé et des médecins-chefs de continuer à assurer leurs fonctions depuis Bamako et en assurant la coordination des actions qui étaient dans le Nord. La reprise de leurs fonctions donc à Bamako vis-à-vis de leur circonscription, par exemple le médecin de Menaka pouvait très bien depuis Bamako continuer à organiser l'action sur Bamako. L'élaboration d'un plan d'opération pour chaque district et dans lequel chaque partenaire, chaque ONG aurait pu savoir de façon coordonnée l'espace dans lequel ils allaient travailler. On pouvait arriver à ce qu'il y ait une gouvernance qui se fasse malgré la réalité qui était là. Une répartition des rôles entre tous les acteurs et au niveau des canalisations, des voies de financement possibles. Bien sûr, il fallait continuer à assurer le financement des ONG qui intervenaient, absolument, il ne fallait surtout pas les affaiblir, mais il avait été possible, et les choses se préparaient dans ce sens, d'utiliser le canal de la décentralisation parce que l'État décentralisé, lui, il était présent sur le terrain. Les communes, il y a 100 communes dans les régions du Nord, ces 100 communes qui sont représentées par des gens qui étaient présents, et même si c'est vrai que certains maires ou adjoints étaient partis à Bamako, il y en avait d'autres qui étaient... On pouvait parfaitement, en tout cas, c'est des discussions qu'on peut avoir indépendamment de cette salle, la possibilité d'utiliser ce canal pour pouvoir reconstruire le système, si on n'avait pas eu, bien sûr, cette intervention qui a libéré les choses. Alors, en conclusion, les organisations humanitaires ont joué un rôle majeur pendant et après l'occupation grâce à leur professionnalisme et à leur engagement. Mais je crois que les situations entre les pays ne sont pas toujours les mêmes. Et au Mali, leurs modalités d'intervention ont été parfaitement justifiées pendant les 3 premiers mois de l'occupation. Mais à partir du 4e mois, il aurait été important de faciliter la reprise par le ministère de la Santé, de son leadership, par les différents ministères dans les différents secteurs, et de faire en sorte que les ONG appuient le leadership du ministère de la Santé. Pour des raisons de souveraineté, ça me paraît quelque chose d'important, et pour des raisons d'efficacité à court et moyen terme. Dernier slide, monsieur le Président. L'exemple du Mali pose le problème des modalités d'intervention de l'aide humanitaire d'urgence, me semble-t-il. L'urgence exige souvent la mobilisation de la solidarité internationale. Je crois que là-dessus, il y a absolument une discussion possible. Mais elle ne justifie pas tout, car après l'urgence, il y a le retour du développement, qui relève d'abord de la responsabilité du pays. Si un État a perdu ses capacités d'intervention, les acteurs de l'action humanitaire doivent chercher à le lui rendre le plus rapidement possible. Et la reprise en main la plus rapide possible de son leadership est fondamentale, car en dépend la relance du processus de développement, et c'est ce processus-là qui va permettre justement de rebondir après ce drame, de se relever, et le renforcement de la cohésion nationale qui également dépend de ce leadership. Je vous remercie.